Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi au téléphone, Guillaume Herman de l'agence de communication Mon Univers qui a été mandaté par la région pour tout ce qui concerne la communication du challenge Mobilité Rhône-Alpes qui aura lieu le 5 juin. Monsieur Herman, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être avant toute chose, pourriez-vous nous expliquer le pourquoi de cet événement? Qu'est-ce qui fait en sorte que la région Rhône-Alpes se mobilise pour promouvoir peut-être d'autres façons de se déplacer vers son travail?
Alors, il y a la région Rhône-Alpes, en effet, il y a également l'ADEME, assez simplement parce que ça fait partie de leurs compétences, hein, c'est des sujets sur lesquels ils travaillent au quotidien, sur des thématiques un peu plus lourdes, ils organisent des réseaux ferrés, des réseaux de bus également. Donc voilà, ils mettent en place et coordonnent toutes les infrastructures et les services de transport à l'échelle régionale, mais pour aller un petit peu plus loin et sensibiliser, parce qu'on sait bien que c'est pas forcément facile de changer ses habitudes, ils essayent de mettre en place des événements qui permettent voilà d'aborder la thématique de manière un peu plus légère et de proposer, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, pour commencer, pour essayer à tester des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.
Oui, parce que sur votre plaquette, j'ai vu qu'il y avait des chiffres qui étaient très signifiants, très parlants, hein. Chaque jour, 2,3 millions d'actifs se déplacent pour aller à leur travail. Rien que sur la région Rhône-Alpes, ils font plus de 50 millions de kilomètres et 75% le font en voiture. C'est vrai qu'il pourrait y avoir des améliorations à cette façon de procéder.
Oui, il y a en effet énormément de choses à faire. Les institutions comme la région et l'ADEME mettent en place pas mal de choses, pas mal de services. Après, c'est vrai que nous-mêmes, à l'échelle individuelle, on peut essayer de travailler sur ses habitudes et ses comportements de mobilité. 75% de ces personnes qui font leur trajet en voiture, c'est beaucoup. Alors, on peut pas les blâmer, hein. Chacun a ses habitudes, ses contraintes, des besoins particuliers qui font que la voiture est souvent le mode de transport, on va dire, le plus évident. Mais si on travaille un petit peu sur de la communication, sur de l'information surtout, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en voiture parce qu'ils ne savent juste pas qu'au final ils ont un arrêt de bus qui les amènerait jusqu'à leur lieu de travail et que cet arrêt de bus il est à moins de 100 mètres de chez eux. On n'a pas forcément l'information, donc les torts, on va dire, peuvent être partagés, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un vrai potentiel et une vraie marge de manœuvre. Pour inverser la tendance et essayer de réduire cette part modale de la voiture individuelle.
Vous me dites que la région Rhône-Alpes et ADEME, bien sûr, se sentent concernés par ces habitudes. Et vous m'avez dit qu'aussi, il y avait d'autres actions. Alors, outre ce challenge Mobilité Rhône-Alpes et ces actions de sensibilisation, quels autres types d'actions ont pu être menées par le passé?
Par la région Rhône-Alpes et l'ADEME?
Oui.
Alors, je ne les connais pas tous, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie implication au niveau régional, déjà, ne serait-ce qu'avec l'organisation des réseaux ferrés, hein, tout ce qui est TER, c'est la région qui est compétente et c'est eux qui l'organisent, donc ça c'est une première chose, et après ils sont évidemment impliqués dans toutes les opérations d'aménagement de grandes infrastructures, qu'elles soient routières, ferrées, sur par exemple la création de grandes voies vertes interdépartementales et régionales. Voilà, ils sont vraiment mobilisés sur de nombreux secteurs en lien avec les transports, pas uniquement les trains. Ils travaillent avec l'ensemble des collectivités, les départements, les collectivités locales, on va dire, avec les agglomérations, les communautés de communes. Ils financent la mise en place de plans de déplacement d'entreprises, par exemple, de plans de déplacement inter-entreprises. En gros, on essaie de faire un maximum de choses pour essayer de mutualiser les moyens, que chacun ne fasse pas son petit projet dans son coin, et voilà, essayer de donner une plus grande envergure, tout simplement, au projet de transport. On a l'exemple du covoiturage actuellement, qui est organisé de manière un peu disséminée par les départements ou les collectivités locales. La région est en train de réfléchir pour essayer de créer une nouvelle dynamique et faire un outil qui centraliserait tous ces moyens de mise en relation.
Surtout que la région de Rhône-Alpes et l'ADEME ne sont pas les seuls. Heureusement, il y a la société civile et d'innombrables associations qui réfléchissent à cet état de fait et qui proposent en particulier des sites internet de covoiturage dans lesquels on peut effectivement s'inscrire pour dire je vais de tel endroit à tel endroit tous les jours de 8h à 8h30. Est-ce que justement ça faisait partie peut-être des projets de la région de faire ce genre de site de mise en relation?
C'est vrai qu'on constate ces dernières années un véritable foisonnement des sites de covoiturage au niveau très local avec les communautés de communes notamment, mais aussi au niveau des départements. C'est malheureusement pendant longtemps des initiatives un peu isolées qui n'étaient pas faites en concertation. Et du coup, à force de multiplier les sites, on est arrivé à une certaine perte d'informations au final. Et donc, on est en ce moment dans une véritable dynamique de regroupement de ces sites. Alors c'est déjà le cas avec le Conseil général de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche notamment, qui sont basés tous trois sur un même référentiel qui permet vraiment d'avoir ce qu'on appelle une véritable interopérabilité entre les sites. Et la région est en train de vraiment pousser dans ce sens pour essayer de mobiliser l'ensemble des prestataires et des personnes qui construisent les sites de covoiturage pour avoir un outil régional qui permette vraiment d'avoir quelque chose d'efficace et de performant et de territorial, avec des logiques territoriales sur le déplacement domicile-travail notamment.
Vous avez parlé d'information et de sensibilisation, car c'est effectivement un des nerfs de la guerre. Et justement, ce challenge mobilité Rhône-Alpes qui aura lieu le 5 juin fait partie des actions menées par Rhône-Alpes, justement. Est-ce que vous pourriez nous préciser quels sont les objectifs un petit peu et que va-t-il s'y passer?
Très bien. Pour reprendre depuis le début, le challenge mobilité Rhône-Alpes, donc c'est organisé par la région Rhône-Alpes et l'ADEME Rhône-Alpes. L'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies. Le but du jeu, c'est donc d'organiser une journée, juste avant l'été, on va dire, hein, pendant les beaux jours, pour essayer de sensibiliser et d'expérimenter de nouveaux modes de transport qui sont donc alternatifs à la voiture individuelle. Donc l'objectif pour la région et l'ADEME, c'est d'avoir un maximum d'établissements qui sont inscrits. Alors peuvent s'inscrire finalement toutes les structures qui emploient des salariés, qu'elles soient publiques, privées, associatives, et quelle que soit leur taille, évidemment. On a des entreprises, des auto-entrepreneurs qui participent, et on va jusqu'à la très très grande entreprise qui compte plus de 5000 salariés. On en a une petite dizaine là sur la région qui sont inscrites. On a les hôpitaux notamment qui comptabilisent énormément de salariés et de participants. Donc, c'est vraiment ouvert à toutes les structures de la région, sur tous les territoires, qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural, avec des différences au niveau du classement qui prennent évidemment en compte cette diversité territoriale. Donc ne sont pas classés dans la même catégorie une entreprise qui est au fin fond de la Drôme et une entreprise qui est située dans le Grand Lyon, pour donner un exemple. Et donc le but du jeu, c'est d'en avoir pour nous un maximum d'inscrits. Et après, eux, en interne, les établissements inscrits, leur objectif, c'est de mobiliser un maximum de salariés pour que ce jour-là, ils aient un maximum de monde qui viennent autrement que seuls dans leur voiture. Voilà. Alors, sont évidemment compris ceux qui le font déjà habituellement. C'est aussi un moyen de les valoriser parce que c'est trop rarement le cas encore. On parle beaucoup de places de stationnement attribuées, on parle beaucoup de voitures de fonction, mais on parle beaucoup moins de ce qui est fait. Et à raison, puisque il y a beaucoup moins de choses justement qui sont faites pour ces personnes qui viennent autrement, qui font l'effort tous les jours de soit prendre leur vélo, soit de mutualiser leur voiture et la rendre accessible à d'autres personnes, de prendre les transports en commun, de prendre le train. Et ces personnes-là, on n'en parle pas beaucoup. Alors voilà, c'est aussi une façon pour la région et l'ADEME de les valoriser le temps d'une journée. Et puis évidemment, on a un vrai objectif derrière de sensibilisation au report modal, donc le passage de la voiture à un autre mode de transport, ce qui est quand même le but ultime et recherché au final, c'est de réussir à convaincre un maximum de monde, d'essayer au moins une fois avec l'espoir qu'ils puissent faire perdurer cette pratique dans le temps.
Je vais faire deux ou trois digressions avant de vous reposer la question de savoir comment ça fonctionne. La première, c'est que je voulais juste vous citer une entreprise du Diwa qui s'appelle l'Herbier du Diwa qui rémunère, alors je me rappelle plus quel est le montant, mais en tout cas les gens, leurs salariés qui vont à leur entreprise en vélo, je crois qu'ils ont une prime, alors je me rappelle plus de combien, mais quand même quelques dizaines d'euros par mois.
D'accord.
En fait, c'est une entreprise qui est hautement écologique, je dirais. Très concernée par tout ce qui concerne l'écologie, puisqu'ils sont dans les plantes médicinales, les plantes aromatiques,
D'accord. etc. J'espère qu'ils écoutent RDWA, comme ça ils pourront s'inscrire, du coup.
Ben, peut-être. Écoutez, je pourrais même leur envoyer un mail avec le lien, si vous voulez.
Avec plaisir, je vous remercie.
La deuxième, c'est que vous parlez de points nodales, et alors moi je peux me permettre, en tant que citoyen et utilisateur de ce genre de points nodaux, peut-être faudrait-il réfléchir à faire en sorte que les parkings près des gares soient moins chers, parce que ça peut être un coût rédhibitoire. Hein.
Oui.
Vous arrivez avec votre voiture, vous la laissez la journée, vous reprenez un autre engin, que ce soit du cheval ou un bus, et vous payez je sais plus combien, et ça finit par revenir cher quand même.
Ça finit par devenir cher, je peux difficilement dire le contraire, hein. Il y a en effet encore beaucoup de choses à faire. Il faut quand même avoir bien conscience que les autorités organisatrices des transports y réfléchissent tous les jours, que le but c'est bien de faire baisser le coût pour l'usager. Il faut quand même garder à l'esprit que ces infrastructures ont aussi un coût d'investissement et un coût de fonctionnement, et donc forcément c'est répercuté en partie sur l'usager. Mais on peut aller un petit peu plus loin dans votre raisonnement. C'est vrai qu'un abonnement, si on le prend comme ça, un abonnement de transport en commun, ça peut paraître cher ou excessivement cher pour certains. Ceci dit, quand on le rapporte au coût de la voiture, au coût réel, si on prend en compte tous les coûts qui sont cachés, comme l'assurance, la carte grise, l'entretien, les pneumatiques, etc., on arrive très facilement à faire diminuer de 2 à 10 fois son budget transport. Donc voilà, c'est un peu, si vous êtes dans une logique de réflexion et que vous regardez combien ça vous coûte, prenez vraiment en compte tous les coûts réels et vous verrez que même en payant un peu cher les parkings, on arrive toujours à un coût inférieur à celui de l'utilisation de la voiture sur l'intégralité du trajet. Le but du jeu, c'est de réussir à baisser au maximum les coûts, mais soyez sûr que les autorités organisatrices des transports le savent et ils travaillent en tout cas.
Je n'insisterai pas plus. Et juste une dernière petite digression en laquelle je pense, c'est le département de la Drôme, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a eu des aires de covoiturage qui ont été installées. En fait, qu'est-ce qu'on appelle une aire de covoiturage? C'est un petit carré bétonné ou en tout cas bitumé sur lequel théoriquement les gens peuvent se donner rendez-vous. Est-ce que ça fonctionne ça quand on sait que en fait le stop existait avant et n'a pas besoin de bitumer une parcelle de terrain quand même?
Alors oui, ça fonctionne, il faut le temps que ça prenne, mais les aires de covoiturage marchent de mieux en mieux. La première raison, c'est que du coup elle est visible et identifiée. Donc c'est vraiment un point matérialisé sur lequel on sait qu'on peut se rencontrer. Et pour répondre à votre question sur l'autostop, c'est vrai qu'il existe depuis longtemps, mais l'apparition de ces parkings qui sont couplés en fait à l'apparition de ces nouveaux sites de covoiturage. Celui de la Drôme, c'est covoiturage 0726, et en Isère on a à peu près le même, c'est écovoiturage. Ils font en sorte de sécuriser en fait la pratique. C'est vrai qu'on a toujours, quand une personne fait du stop, on a toujours un petit a priori avant de s'arrêter, on se demande si c'est bien prudent ou pas. Des sites de covoiturage qui sont en place actuellement permettent vraiment de lever un petit peu ce frein-là en rassurant les personnes, puisque les gens qu'ils vont prendre dans leur voiture sont identifiés, elles ont un code, on connaît, on peut les retrouver. Enfin, voilà, il y a toute une logique de sécurisation de la pratique qui rentre en jeu et qui permet quand même de rassurer les personnes qui potentiellement pourraient s'arrêter et venir chercher des gens à ces heures de covoiturage. Elles marchent de mieux en mieux, ces heures de covoiturage, parce que justement elles sont identifiées et repérables également sur les sites internet. Donc voilà, c'est vraiment des lieux que tout le monde peut voir de manière réelle ou virtuelle. Et donc c'est des vrais points de rencontre actuellement.
Rappelez-moi d'abord, c'est depuis combien de temps pratique-t-on ce challenge Rhône-Alpes?
Alors, le challenge mobilité Rhône-Alpes en tant que tel, il existe depuis 4 ans, c'est la 4e année cette année. D'un point de vue historique, en fait, on a plusieurs agglomérations, comme l'agglomération de Grenoble ou de Lyon, qui organisaient des petits challenges, mais qui étaient en général sur un seul mode. On avait un challenge covoiturage, un challenge vélo dans une autre agglomération. Ça restait à une échelle très locale et ça manquait, on va dire, ça souffrait un peu d'un manque de visibilité et de moyens. Et donc la région Rhône-Alpes et l'ADEME se sont associés pour essayer de donner un petit peu plus d'ampleur, un peu plus d'envergure à ces initiatives et surtout d'y associer l'ensemble des modes alternatifs. Voilà, on n'est plus sur un challenge sur un seul mode, mais vraiment sur l'ensemble des modes alternatifs, quels qu'ils soient. Donc on a parlé là tout à l'heure de covoiturage, il y a évidemment le train, les transports en commun, la marche, le vélo. Voilà, et puis après, c'est vrai qu'il y en a qui jouent vraiment le jeu et qui viennent du coup en longboard, en trottinette. On a des photos où des gens se poussent dans des caddies. Enfin voilà, on arrive à faire émerger des choses et c'est assez sympa.
Vous me dites qu'il y a des entreprises, des associations même qui s'inscrivent, des administrations, sait-on jamais. Ouais. Mais que se passe-t-il ? Alors, une fois qu'ils sont inscrits, ils informent leurs salariés que cette journée a lieu. Et alors, les salariés, que font-ils ? Ils jouent le jeu ? Gagne-t-on des points ? Comment ça se passe, en fait ?
Alors, pour recommencer, donc, depuis le début, en effet, l'établissement s'inscrit. Donc, dans l'établissement, c'est une personne qui est déjà plus ou moins sensible. Ou, en général, c'est des personnes soit de la direction, soit des ressources humaines, soit du service communication, ou encore des services qualité, sécurité, environnement, quand ça existe. Donc, ils vont sur Internet et ils inscrivent leur établissement sur le site www.challengemobilité.ronalp.fr. Et là, ils ont une procédure qui est relativement simple pour inscrire leur établissement, où on leur demande juste les coordonnées, de choisir un territoire sur lequel ils participent, et on leur demande également le nombre de l'effectif total de leur établissement. Donc ça, c'est l'étape numéro 1, c'est l'inscription. Et ensuite, à partir de là, le défi pour ce référent, cette personne qui a inscrit son établissement, c'est vraiment de réussir à motiver, à mobiliser un maximum de salariés. Donc pour ça, on a en place, une fois que l'établissement est inscrit, il a à sa disposition un espace de téléchargement dans lequel il va pouvoir retrouver des affiches, des flyers, des modes d'emploi. On a tout un jeu de bannières web, de signatures également, plein de petits widgets qui vont sur les sites internet, qui peuvent permettre de faire la promotion en interne sur les intranets par exemple. Et voilà. Et sinon, on placarde autant qu'on peut des affiches prévenant de l'événement le 5 juin. On a tout un mode d'emploi pour le salarié, pour lui expliquer comment est-ce qu'il peut s'organiser. Et voilà. Ça, c'est le point 2, c'est la mobilisation. Et le jour du challenge, le 5, on compte le nombre de personnes qui viennent autrement, du coup, que seules dans leur voiture. Alors, pareil, sur la plateforme, on a, dans l'espace de téléchargement, on peut avoir à disposition des bulletins de participation. Donc, l'idée, c'est de laisser ces bulletins à l'entrée des sites. Les salariés les remplissent, les remettent au référent. Et le référent vient compiler tout ça sur la plateforme Internet. Voilà, c'est grosso modo. On a aussi une variante qui permet de générer un code d'établissement et chaque salarié peut lui-même venir inscrire son trajet directement sur Internet. Donc ça décharge un peu le référent de tout ce travail de récolte des données. Voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir rentrer ces résultats. Mais le vrai résultat et le vrai enjeu pour le référent, finalement, c'est pas tellement de compter et d'avoir un chiffre exact de la part modale dans son établissement, mais c'est plutôt de créer un véritable moment de partage et d'échange sur cette thématique mobilité. On est le 5 juin, donc les beaux jours sont là. C'est vraiment un temps d'échange qu'on a pu constater ces 4 dernières années. C'est que c'est un vrai moment de partage et de convivialité entre les salariés. Voilà, on a des référents des établissements qui mettent en place des petits déjeuners pour accueillir les salariés, d'autres qui font carrément des grandes balades. Ils banalisent la journée en entier, ils font des grandes balades à vélo autour de leur établissement, sur leur territoire. Voilà, on a plein de petites initiatives qui font vivre et qui amènent pas mal de couleurs à cet événement. C'est vraiment très sympa. Je vous invite à aller sur le site internet pour regarder un petit peu les photos et voir les vidéos.
Que gagnerait-on à participer à ce challenge, outre cette satisfaction d'avoir participé, d'avoir fait un geste, d'avoir passé même une bonne journée ?
Alors, pour parler très simplement, il y a évidemment une remise des prix. En fonction des territoires, on a même une remise des prix locale en fonction des différents départements. Mais nous, à l'échelle régionale, on a une cérémonie de remise des prix régionale qui aura lieu cette année le 1er juillet à l'hôtel de région. Tous les participants sont bien évidemment invités. Et donc, on récompense ceux qui ont réussi à mobiliser un maximum de leurs salariés. Donc, sont gagnants, en fait, ceux qui ont le plus grand taux de participation. Le taux de participation, c'est le nombre de personnes qui sont venues autrement sur le nombre de personnes présentes sur le site ce jour-là. Et quand je dis les personnes qui viennent autrement, c'est évidemment celles qui viennent tous les jours en vélo, en transport en commun, en covoiturage, auxquelles on ajoute celles qui ont fait l'effort ce jour-là de faire du report modal et d'essayer un nouveau mode. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on gagne, c'est en ayant 100% de participation dans son établissement. Ça, c'est la première chose. Et donc, on a des classements par taille d'établissement. Évidemment, c'est bien plus facile d'arriver à 100% quand on est 10 salariés que quand on est 3000. Et on a des classements également par type de territoire. Donc, on a le territoire métropole qui concerne les agglomérations de Grenoble, Lyon et Saint-Étienne. On a la catégorie ville moyenne qui concerne toutes les agglomérations où on retrouve un réseau de transport urbain, comme Chambéry, comme Vienne, par exemple. Et enfin, on a les, et là, ça concerne peut-être un peu plus le territoire bromois et livois, on a les territoires ruraux et les petites villes. Voilà. Donc ça fait au final une dizaine de catégories qui sont récompensées. Et on récompense, on essaye de faire des lots qui valorisent le collectif. Donc c'est soit l'organisation d'un petit déjeuner bio sur le site de l'établissement. On organise des sorties en transport en commun en moyenne montagne aussi, ou des bons cadeaux mobilité, des choses comme ça. Voilà. Ceci dit, plus que la récompense, c'est quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, la satisfaction d'avoir réussi à créer un peu l'émulation autour de cette thématique. Il faut savoir qu'il y a quand même des établissements qui travaillent tous les jours, hein, sur les déplacements de leurs salariés. Donc c'est pour eux un véritable outil de dynamisation de leur démarche. Il faut pas regarder que la remise des prix, c'est vraiment quelque chose qui a pour but après de s'inscrire dans le long terme, de montrer que c'est possible de faire autrement, quel que soit le territoire. Je sais que dans la Drôme, c'est pas forcément évident quand on est dans des milieux ruraux, c'est pas forcément évident de faire du transport en commun, mais on a toutes sortes d'autres pratiques qui permettent quand même d'essayer au moins une fois. On a les modes doux, la marche et le vélo, et je pense notamment quand même chez vous, le covoiturage me semble tout indiqué. On a aussi vu des chefs d'établissement qui louaient un bus pour faire le ramassage de tous leurs salariés les années précédentes, et ces gens-là ont réussi à gagner le challenge, donc voilà. Le but du jeu, c'est vraiment de faire tester, d'expérimenter, parce qu'on sait très bien que c'est pas en disant à quelqu'un, en le culpabilisant et en lui disant « tu fais pas les choses comme il faut, tu respectes pas la planète », qu'on arrive à faire changer les choses, mais c'est bien en leur montrant que voilà, c'est juste possible, on peut essayer ensemble une journée, voir ce que ça donne, et après ils prennent leur décision. L'idée vraiment du challenge, c'est de sortir de ce discours moralisateur qui voudrait que l'automobiliste soit la plaie de notre société actuelle, et montrer juste qu'on peut associer plaisir et mobilité, voilà, plaisir, convivialité, partage, ça renvoie à quand même pas mal d'autres choses que simplement l'environnement, ça renvoie à de la solidarité, au social, ça renvoie au sport également, donc voilà, on peut vraiment l'aborder sous plein d'angles différents, et c'est ça qui est très intéressant.
Est-ce que vous auriez une idée de l'impact du challenge mobilité de l'année dernière? Combien de gens ont participé justement?
Alors oui, on a eu une idée, pas assez, hein, l'impact toujours, on sera jamais satisfait, mais on avait quand même l'an dernier presque 550 établissements qui se sont inscrits, ce qui représentait 30 000 participants. Donc dans ces 550 entreprises, il y a quand même 30 000 participants qui sont venus autrement, c'est quand même assez remarquable. À titre de comparaison et pour montrer qu'on est quand même sur une vraie évolution, on a commencé en 2011 avec 227 établissements et 12 000 salariés. Donc on a triplé le nombre d'établissements et le nombre de salariés participants. Voilà. Au final, ces 30 000 participants ont cumulé presque 450 000 km en mode alternatif ce jour-là, contre, on va dire, je crois que c'était de mémoire 160 000 en 2011. Donc là aussi, on triple les scores en 3 ans. Donc on voit qu'il y a un vrai impact au sein des entreprises, et qu'en plus, c'est vraiment une thématique qui est porteuse et qui permet de voir les choses un petit peu différemment, de faire changer les mentalités dans les établissements.
Ça veut dire que ce challenge mobilité Rhône-Alpes, qui est donc bien parti, a duré dans le temps. Ça se refera.
Ça a duré dans le temps, donc cette année c'est la 4e année. Les établissements qui participent sont à chaque fois vraiment, vraiment ravis, et on en a certains qui sont devenus accros. Hein. C'est un vrai temps de partage pour eux. Chaque année, ils l'attendent avec impatience. C'est toujours très très sympathique. Voilà, on peut quand même évoquer un peu quelques
partenaires
au niveau environnemental, on va dire. C'est vrai que l'ADEME travaille vraiment là-dessus, hein, sur l'impact environnemental. Mais ces 445 000 km qui ont été parcourus l'an dernier, ça représente quand même 11 fois le tour de la Terre. C'est quand même 27 tonnes de CO2 qui ont été économisées. 27 tonnes de CO2 économisées, ça correspond en fait à l'équivalent de la capacité d'absorption annuelle de 2250 arbres. Donc voilà, c'est comme si finalement les salariés rhône-alpins l'an dernier qui ont joué le jeu avaient planté une forêt de 4,5 hectares. Donc voilà, c'est pas rien, ça existe. Il faut continuer dans ce sens, parce que vraiment, c'est un événement qui va dans le bon sens.
Vous avez cité plusieurs fois ce que j'avais omis de faire, l'ADEME. Est-ce que vous avez d'autres partenaires que vous souhaiteriez citer qui ont collaboré à ce challenge Mobilité Rhône-Alpes, outre l'ADEME et Rhône-Alpes?
Évidemment, il y a pas mal de monde qui travaille là-dessus. Donc la région et l'ADEME qui sont vraiment à l'initiative et qui sont les grands coordonnateurs, on va dire. Ceci dit, on a quand même besoin de relais locaux, des gens qui ont un véritable ancrage territorial, des gens qui connaissent, qui ont du réseau, qui connaissent le territoire, qui connaissent les difficultés des salariés. Et donc ça, on a sur chacun des départements des structures qui sont soit des collectivités, soit des espaces info-énergie, soit des associations et qui travaillent d'arrache-pied pour nous aider à mobiliser un maximum d'établissements et faire de cette journée une véritable fête. Donc je vais commencer par la Haute-Savoie, par exemple. Alors là, en Haute-Savoie, c'est l'espace info-énergie prioritaire qui chapeaute tout ça. On a le Grand Lyon et Pignon-sur-Rue à Lyon, qui s'occupe de la mobilisation de toute l'agglomération lyonnaise. On a Valence-Romande Déplacement sur une partie, la partie nord de la Drôme. On a l'association l'ADTC et l'agglomération grenobloise qui travaillent sur le bassin de vie grenoblois. Espul pour tout le Rhône, excepté le Grand Lyon. On a l'agence Écomobilité à Chambéry et sur tous les territoires de la Savoie. On a l'agence de mobilité Nord-Isère, qui travaille, comme son nom l'indique, en Nord-Isère. Eliant, l'espace info-énergie de l'Ain. Elios, également une association qui travaille d'arrache-pied. Ils font des choses assez fabuleuses pour ce challenge. Ils sont à Saint-Étienne. Vienne Aglo, pour Vienne, pour le territoire de Vienne et son agglomération. L'agence mobilité de l'Ardèche, pour tout ce qui concerne la Dèche. Et ma structure, mon univers, pour le reste de la Drôme. Donc, toute la Drôme, sauf Valence-Romande Déplacement. Voilà, donc tout ça, c'est des gens qui travaillent tous les jours pendant 3 ou 4 mois pour essayer d'avoir un maximum de participants. C'est des gens convaincus qui font un travail remarquable. Voilà.
Et alors, je suppose que pour s'inscrire, vous avez un site internet que vous allez nous citer tout de suite.
Oui, alors je vous invite à venir vous inscrire sur le site du Challenge Mobilité Rhône-Alpes. C'est www.challengemobilité.rhonealpes.fr. Si vous n'avez pas le temps de noter, c'est pas grave, vous le retrouverez sur Google, on est assez bien référencé, vous tapez Challenge Mobilité Rhône-Alpes, vous tomberez sur le site assez facilement. Voilà.
Eh bien, monsieur Herman, je vous remercie de nous avoir contactés pour que nous participions aussi à Erdiwa à la promotion de ce Challenge Mobilité. Pardon ?
J'espère vous voir inscrit bientôt.
Sait-on jamais, je vais essayer de me pencher sur la question. Mais vous savez, pour l'instant, on est deux et je pense que nous covoiturons et nous faisons du stop aussi. Et une de nos salariées venait en vélo électrique aussi. Donc, sans faire partie du challenge, bon, on pourrait peut-être s'y inscrire, ça vous ferait plaisir. Mais vous avez cité les entreprises, vous n'avez pas parlé des associations, je me suis permis tout à l'heure de le dire.
Vous avez raison, c'est entreprise, administration, association. C'est, comme je disais, c'est toutes les structures qui emploient des salariés, voilà, et qui se soucient un petit peu de leur mode de déplacement. Vous pouvez vous inscrire chez Erdiwa, ce sera un plaisir. Vous aurez un peu moins de mal à arriver à 100% pour le coup.
Voilà. Et donc je termine en lançant un dernier appel aux entreprises, administrations, associations du Diwa qui nous écoutent pour qu'ils s'inscrivent pour participer à ce challenge mobilité Rhône-Alpes qui aura lieu le 5 juin. Monsieur Herman, je vous remercie, à bientôt.
Moi qui vous remercie, au revoir.
Au revoir.
Interview. 1-ter-view.
Okay, the bird.